Dans la paracha que nous allons lire demain, la paracha se compose en fait de deux grandes parties. Il y a deux grands thèmes dans la paracha de Hayé Sara. Le premier, c'est tous les efforts qu'a fait Abraham pour donner à sa femme Sara une sépulture digne, correcte, et tous les investissements qu'il avait pour devenir propriétaire de cet endroit qu'on va appeler par la suite la Meharat Amarpela. Et le second volet de la paracha, c'est le mariage de Yitzhak et de Rivka. Il y a une similitude finalement quand on étudie la halakhot, on voit qu'il y a une grande similitude entre le mariage et la mort. C'est quelque chose qui est surprenant, puisque dans les deux cas, il y a 7 jours d'un côté, il y a 7 jours de l'autre. Il y a certainement un rapport, et on reviendra un peu plus tard pour essayer de mieux me comprendre. Je voudrais juste prendre ici référence sur Rashi dans les premiers versets de la paracha. Rashi fait remarquer que le décès de Sarah Imenu est passé, s'est déroulé juste après l'événement de l'épreuve de la Akeda, du sacrifice de Yitzhak. La Torah donc a parlé de ce sacrifice d'Yitzhak. À la suite de ce sacrifice d'Yitzhak, il y a déjà un aperçu de son futur mariage, dit Rashi, puisqu'on annonce à ce moment-là à Abraham la naissance de la future épouse de Yitzhak. Juste comme dit le verset « Vayihar advarim ha'ele » Vayugad l'Avraham, après ce qui s'est déroulé donc dans la Akeda, on a fait part à Avraham des descendances de Milka qui a elle aussi avait mis au monde des enfants, et parmi lesquels bien sûr et Betuel, et Betuel Yalad et Rivka, qui va bien sûr par la suite être l'épouse de Yitzhak Avinu. Donc il y a des événements qui se suivent ici, et l'événement également de la mort de Sarah est relevé par Rashi. Le Rashi donc nous dit ici que cet événement est relaté, rapporté, juxtaposé à la Akeda de Yitzhak Avinu. Rashi, dans les propos de Rashi, Nismecha mitat Sarah la Akeda Yitzhak, Akshu a juxtaposé ces deux événements. D'une part, le décès de Sarah avec le sacrifice de Yitzhak. Pour nous apprendre, les filles Charide Besorat Akeda Nizdamna Bena Lishrita Vikimat Shelunishrat Parhanish Matam Menometa. Puisque lorsqu'elle a eu vent, lorsqu'elle a été mise au courant, puisque cet événement de sacrifice est passé un peu à son insu, on n'a pas du tout averti Sarah que Avraham avait pris son fils pour le sacrifier. Et donc, quand elle a été mise au courant de cet événement, cette mise au courant de cet événement s'est déroulée, bien sûr, une fois que Yitzhak est sorti en vie de cette épreuve. Et malgré tout, Parha Nishmata, son âme s'est envolée. Son corps donc s'est séparé de son âme. Et c'est pourquoi, ici, elle est morte. Voilà donc ce que rapporte ici le verset. C'est à nous de comprendre, finalement, que se cache derrière ce rapprochement entre le fait que Sarah ait entendu le sacrifice de son fils et qu'elle soit morte. Est-ce que c'est simplement parce que, par l'émotion d'une nouvelle brusque, ce qui arrive souvent, un homme ne peut pas résister? Ou alors il y avait derrière ça, on va essayer de le comprendre plus profondément, derrière ça une idée plus importante. Maintenant, ceci étant, il y a quelque chose aussi à remarquer. Je pose juste le problème. De toutes les femmes qui sont citées dans la Torah, la seule femme sur laquelle la Torah a pris le soin de dire son âge, c'est que Sarah. Nous n'avons aucune indication d'aucun âge d'aucune femme dans la Bible. Aucune. C'est la seule et unique femme sur laquelle Akadosh Baruch Hu va dire « Voici, cette femme a vécu tant et tant d'années. » Tout ce qui a précédé les générations qui ont précédé Abraham et les générations qui vont suivre aussi, bien on ne parle uniquement que des hommes et les femmes sont mises un peu de côté. La seule exception à la règle, ça a été Sarah, d'une part. D'autre part, et c'est aussi un événement très, très particulier, Compte tenu que quand on lit ces parachiotes-là de Sarah Abraham, il faut bien savoir qu'on se situe à peu près 2000 ans ou un peu plus après la création du monde, après Adam Harishon. Nous sommes déjà au troisième millénaire. Et bien sûr, la Torah a relaté les générations à venir, les gens, combien ils ont vécu. Et à aucun moment, on ne fait part de l'enterrement. La seule fois où la Torah parle d'enterrement, c'est uniquement ici. On a dit, dans les autres parachutes, on dit, telle personne, il a vécu, il est mort. Et après la mort, on n'a plus d'informations. La seule fois où, après la mort, il y a un événement qui suit, c'est l'événement de l'enterrement. C'est relaté pour la première fois à ce moment-là. Et donc, c'est aussi à retenir pour quelles raisons. Et c'est uniquement ici où la Torah fait part de cet acte de charité. Parmi tous les actes de charité qu'un homme peut faire dans sa vie, le plus grand acte de charité, c'est de s'occuper d'enterrer quelqu'un qui est décédé. C'est le plus grand acte de charité. Et pourquoi donc il y a dans toutes les formes de générosité qu'un homme peut faire durant sa vie, un homme va durant sa vie donner, aider, soutenir, etc. Mais la Torah va dire le seul acte de véritable charité, c'est lorsqu'un homme s'occupe d'enterrer quelqu'un qui a quitté ce monde-là. Et donc, en quoi il y a dans cet acte-là une charité plus grande, en fait, que dans toutes les autres formes de charité? Et dernière et unique question, et qui devrait d'ailleurs nous étonner. Vous savez que, en tant qu'esprit dans le judaïsme, dans l'esprit du judaïsme, l'accent et le focus est mis sur la vie de l'âme. On vous dit, attendez, ne vous confondez pas quand vous regardez dans un miroir, ce n'est pas vous. Vous, vous êtes derrière le visage. Ce que vous voyez, ce n'est qu'une enveloppe, ce n'est qu'un vêtement. Mais vous, essentiellement, vous n'êtes pas votre corps. Vous, essentiellement, vous êtes autre chose. C'est comme quelqu'un qui se regarde, il voit extérieurement que le costume. Enfin, lui, ce n'est pas son costume. Et bien de la même manière, le judaïsme nous apprend au fur et à mesure du temps, plus on rentre un peu dans l'idée du judaïsme, et plus on se familiarise à l'idée que le regard qui nous est reflété à travers un miroir, ce n'est pas que ça. Nous ne sommes pas que ce visage. D'ailleurs, c'est particulier puisque le mot, là où il y a la distinction d'une personne, c'est dans son visage. Le visage en hébreu s'appelle panim. Et le mot panim est à rapprocher avec pnim. C'est-à-dire que dans le visage, il y a le reflet de l'intérieur de la personne. C'est-à-dire que son être est reflété à travers son visage, mais son être, il est à l'intérieur de ce visage. Le visage n'est qu'un moyen de le refléter. Donc lorsque un homme donc s'habitue, se familiarise durant toute une vie à l'idée que sa personne, et que son corps n'est finalement qu'une partie très extérieure à sa personnalité. C'est juste une couverture. Donc on devrait, a priori, lorsque le corps et l'âme se sont séparés, on devrait considérer le corps comme quelque chose de négligeable. Et donc s'en débarrasser comme quelqu'un débarrasserait d'un costume, tout simplement. Ou comme les Chinois font des corps de ceux qu'ils ont, ils les brûlent. Et nous, on voit que il y a un soin particulier à apporter à un corps qu'on va mettre sous terre, puisqu'on prend la précaution avant de l'enterrer, de le nettoyer, de le faire propre, de le faire beau, de le faire. Et donc il y a un accent qui est mis justement autour de ça. On prend avec une considération énorme et avec beaucoup de soin, beaucoup de recherche, la manière dont ce corps finalement va être considéré à la fin de la vie. Et l'idée, donc, ici, est de savoir, en fait, quel est tellement l'intérêt de la chose. Si le corps n'est finalement qu'un vêtement de mon âme et que moi, je suis essentiellement l'âme, donc pourquoi autant d'intérêt, autant de recherche sur le fait que où est-ce qu'on va et comment on va l'enterrer, de quelle manière les choses vont se passer? Pourquoi Avraham Avinu va tellement faire d'efforts pour une sélection d'un endroit particulier Ça, c'est notre troisième et la dernière, bien sûr, question, c'est de savoir que ce nom-là, ou le choix de cet endroit qui a été choisi par Avraham Avinu pour enterrer, s'appelle Meharat HaMachpela. D'où vient ce nom Machpela, qui veut dire doublé. Machpela, c'est le mot en hébreu qui vient du mot Kefel. Kefel, c'est ce qui est doublé. Il dit, alors, deux explications que nous allons lire à travers Rashi. La première, c'est dans la construction de cette caverne. Cette caverne était double. Double, la discussion, est-ce que c'était un endroit superposé, c'est-à-dire qu'il y avait une caverne inférieure et au-dessus une caverne supérieure, ou doublé parce que c'était une caverne et qui donnait ensuite issue à une seconde caverne plus intérieure, donc une plus extérieure comme une antichambre et une autre plus intérieure. C'est une discussion que nous allons voir dans la Gemara entre Rav et Shmuel, savoir comment était constitué. Mais seconde explication rapportée par Rashi, et elle était occupée, cet endroit était occupé par quatre couples. Donc c'est la caverne des couples, des accouplés. C'était d'un côté Adam, Rishon et Hava, qui étaient, comme vont dire les Hachamim, ou à l'étage inférieur, donc en bas, ou dans la chambrette intérieure pour ceux qui étaient enterrés, donc séparément. Et ensuite, les trois autres Avot, Abraham, Isaac et Jacob, avec leurs épouses respectives, qui sont ou dans la chambrette supérieure, ou dans celle qui est plus à l'extérieur. Voilà. Donc c'est sur ce nom-là que nous appelons cet endroit Maharat HaMachpela.
Le mot doublé, ce ne serait pas parce qu'ils sont par couple?
Ils sont par couple, mais la Mehara elle-même, elle est double. La Mehara elle-même, dit la Gemara, elle est doublée. C'est-à-dire elle est double, il y a une double occupation en fait. Ou un sous-sol et un premier étage, ou une chambre qui donne ensuite accès à une chose plus intérieure. Voilà donc ce que je voudrais essayer d'expliquer aujourd'hui. Et pour le faire, nous allons avoir un texte, puisque je sais que le Rav Gué a pour habitude, quand il donne son cours, de faire appel au Maharal. Donc on ne va pas démordre à l'habitude du Rav Gué. Et nous allons rapporter un texte excessivement étonnant. La Gemara, dans la Masechet Baba Batra, Nunhet. Je vous lis le texte de la Gemara. Rabbi Benaha. Rabbi Benaha était un Tana, d'ailleurs, qui est enterré à Tzfat. Très particulièrement, il n'est pas dans le grand cimetière de Tzfat, mais sa tombe se trouve à l'entrée d'une porte d'une maison. Donc, il se trouve vraiment au cœur de la ville. C'est très, très, il faut le savoir. Ce n'est pas connu de tous. J'ai eu l'occasion une fois d'être sur son kever. C'est au seuil d'une maison, en fait, tout simplement. Oui. Wow. Et Rabbi Benaha ava kemetsayen maharta. Il avait pour projet de délimiter les endroits de cimetières. De délimiter. Nous allons voir Rashi. Rashi dit il avait cette habitude. Rashi rapporte Adam Gadol, c'était un grand homme. Vehashuv est très important. C'est pourquoi il lui a donné la permission, il lui a accordé la permission de pouvoir accéder dans toutes les tombes. Également celle de Meharat HaMachpela, comme nous allons lire dans l'histoire par la suite. Pour quel but il faisait extérieurement? C'était pour permettre aux Kohanim de pouvoir circuler librement en Israël, puisque un Kohen ne peut pas aller là où il y a une tombe, donc il fallait délimiter. Donc il voulait y rentrer à l'intérieur de la caverne pour limiter l'endroit intérieur, et à l'extérieur, il faisait une délimitation avec... comme ça, un Kohen savait que sous cet endroit-là, il y a un mort, et qu'il ne fallait pas y accéder. Donc la Gemara continue à expliquer... Quand Kimatal Maharta d'Avram, lorsqu'il est arrivé à la Maharat HaMachpela, il a voulu aussi délimiter l'endroit. Donc, il est rentré à l'intérieur de la caverne, ou celle du haut, ou celle de la première, l'antichambre, et bien sûr, la première personne, le premier corps, le premier couple qu'il a rencontré, c'était Avraham. Donc, quand il est rentré, Kimatalemaharta de Avraham, lorsqu'il est rentré, eh bien, la première personne qu'il a vue à l'intérieur, ça a été Eliezer, le serviteur d'Abraham, qui était à la porte. Ashkahel et Eliezer avaient d'Abraham des kaikam et baba. Ils se tenaient à la porte de l'endroit où est enterré Abraham et Sarah. Amarle maïka avid Abraham. Dis-moi, que fait actuellement Abraham? Que dire que fait Abraham? Abraham, il est mort? Non, les tzadikim continuent à entretenir leur vie au-delà de leur mort. Et donc, il lui pose la question à Eliezer, mais que fait donc Abraham à ce moment-là?
Eliezer était vivant ou...
Non, non, mais ça, cet épisode se passe environ 2000 ans après le décès d'Abraham et d'Isaac. Donc, on parle de quelque chose qui se passe bien après. Et donc, Eliezer est là, il lui parle, a priori, il s'entretient
avec lui. L'âme d'Eliezer.
Oui, oui. Et il lui dit, que fait Abraham actuellement? Amar le gagané bekanfa de Sarah. Il est en train de s'accoupler avec Sarah. Il a une vie maritale. Et il est en train de s'accoupler avec sa femme. Vekama aïnabe bereshe. Et elle regarde sa tête. C'est-à-dire. Tout ça, c'est des images que le Maharal va essayer d'expliquer. Amar le. Il lui a donc demandé, Rabbena, il est Ezer. Zil imale bena'a ka'e ababa. Il dit, va annoncer mon arrivée à Abraham, je suis à la porte et je voudrais savoir un peu quelles sont les dimensions de cette mehara. Donc, sur quelle superficie elle s'étend. Alors, Amar le li'ul, il lui a dit à Abraham de l'intérieur, tu peux monter. Midayadia, ne te fais pas de soucis, même si tu me vois dans une position a priori un peu fâcheuse, un peu pas très correcte, mais ne te fais pas de soucis. Tout le monde sait que dans le monde à venir, il n'y a pas de Yetzara dans le monde dans lequel je vis, donc il n'y a aucune honte. Donc tu peux librement rentrer,
comme
même
Adam
si tu me vois.
Avant la faute.
Hein, oui, mais tu peux me voir, tu peux me regarder, il n'y a pas de problème. C'était mais mieux. Rentre, mesure ce que tu veux mesurer. Il n'y a pas de problème. Aïr Venafik. Donc il est rentré, il est sorti. Maintenant, qui mata le ma'arta de Adam? Il a dit bon, ben, c'est bon. Donc Abraham, je sais. Et par conséquent, Isaac et Yaakov, puisqu'ils sont enterrés dans le même endroit. Donc j'ai délimité l'endroit. Maintenant, il ne me reste plus qu'à savoir
Adam et Hava.
Quelle place ils occupent? Qui mata le ma'arta de Adam Arishon, Yatsta Batkol, alors une voix est sortie à ce moment-là du ciel, Ve Amra, elle lui a dit, Nistakalta Bidmud Yokni, tu as vu quelque chose qui ressemble à l'image de ma personne, c'est-à-dire dans la personne d'Abraham. On t'a permis encore de pouvoir accéder à cette vision des choses, de pouvoir observer Abraham qui est à l'image divine, mais. Bidiokni, mais regardez Adam Arishon, qui est vraiment à l'image que moi je lui ai donnée, il est Betselem Elohim, Altisakel. Là, tu ne peux pas regarder. Alors, Rabbena de s'empresser de poser la question, mais j'ai besoin de savoir quelle est la limite, où est-ce qu'il est enterré. Abaina, Litsayone Marta. Alors, il répond. Il dit, sache une chose, que la chambre est intérieure, elle est dans la même mesure que la chambre extérieure. Donc tu n'as même pas besoin d'y accéder, voilà, on te révèle les mesures. Sache une chose, que ce que tu as mesuré,
c'est la même chose.
À l'extérieur, eh bien exactement la même superficie se trouve à l'intérieur, là où tu es enterré, Adam Rishon. Et Ulman de Amar est celui qui tient que Shnebatim, c'était juste un endroit au-dessus de l'autre. On lui a dit, la même mesure que tu as vue dans le premier étage, c'est exactement Adam Arishon est enterré dans la même mesure, celui qui est Karmidat Atartona. Il dit Rabbi Benaha, mais on m'a interdit de voir Adam Arishon, effectivement, je ne m'a pas permis de pouvoir le voir. Mais j'ai pu quand même observer ses deux talons, puisqu'il devait enterrer, donc il a vu le talon d'Adam Arishon.
C'est ça la famille.
Ressemblait à deux soleils. Voilà, ça c'est la Gemara. Donc textuellement, la Gemara ici nous raconte juste que le Maharal, bien sûr, de s'empresser d'expliquer cette Gemara, il dit, il faut bien savoir que la nécessité, le besoin qu'elle avait, Rabbi Naha, ce n'était pas seulement délimiter matériellement l'endroit pour permettre le libre passage au Kohanim, mais ça allait beaucoup plus loin que ça, il dit le Maharal. En fait, il voulait rentrer en contact, en communication avec les mesures des personnalités qu'il a rencontrées. C'est-à-dire que au-delà de la mesure physique de l'endroit, il voulait aussi savoir quelle était la portée de la personnalité et la mesure finalement, puisque chaque personnalité, il y a des petits hommes, il y a des grands hommes, ça ne se mesure pas à la taille, ça se mesure à la grandeur de l'âme. Et ça, c'est ça, il dit le Maharal, que le Rav Benaha a voulu savoir. Il a voulu délimiter finalement la portée, la grandeur de chacun et sa voix.
Et pourquoi ?
Parce que c'était quelque chose qui était nécessaire de comprendre qui sont ces personnages qui sont pour nous nos avotes et comprendre un peu, comprendre mieux et plus profondément.
Un doute sur la question ?
Non, il n'y a pas de doute, mais chaque ave, chaque personnalité, elle a des traits qui ne se ressemblent pas.
Ah oui, si on te demande qui est plus important...
Oui, on ne peut pas savoir, c'est pas pour savoir plus grand, moins grand, c'est pour délimiter un peu les natures de personnalité, dit le Maharal, qui était Avraham, Isaac et Yaakov. Alors, c'est dans cette délimitation, dit le Maharal, que nous allons comprendre que le Maharal dit... La chose suivante, il vous rapporte une idée essentielle ici. Il vous dit, nous allons voir qu'il rapporte autre part que Moshe Rabbeinu, lui, il est mort dans un endroit, il a été enterré par Dieu lui-même. C'est Hachem qui s'est occupé d'enterrer Moshe Rabbeinu. Mais ce qui est surprenant dans le verset, sans revenir sur le verset, c'est que l'endroit où est mort Moshe Rabbeinu et l'endroit où il était enterré sont deux endroits différents. Il n'a pas été enterré là où il est mort. Il est mort dans une partie, il a été enterré dans une autre partie. Et de là, dit le Maharal, pour quelle raison ? Pour nous faire comprendre que l'enterrement, ce n'est pas la suite de la mort. C'est-à-dire que nous, dans notre esprit, quand on veut dire qu'on a bouclé un processus, alors on dit il est mort et enterré. C'est-à-dire, voilà, les choses s'arrêtent là. Il est mort, et puis ensuite il a été enterré pour dire il ne reste plus de traces, la personne. Voilà, on a bouclé la boucle. Il vous dit ce n'est pas du tout le cas. Pour nous, la vie, elle s'arrête à la mort, et l'enterrement, c'est une transplantation d'un corps pour une vie à venir. C'est-à-dire que quand on enterre une personne, eh bien l'enterrement, c'est la préparation de la vie à venir. Voilà. Et donc, de la même manière que la terre a donné naissance à la vie, puisqu'à 4 jours, il a fait sortir la vie à partir de la terre, eh bien, cette vie qui est la vie de chaque personne. Nous allons voir qu'une personne, à quelque jour, il y a écrit dans le verset, « Vayitzer Hashem Elokim et à Adam mina Adama. » Vayitzer, Hashem a créé l'homme de la terre. Et ce qui est particulier dans ce verset, c'est que le « Vayitzer » est écrit avec deux « Yud ».« Vayitzer » est rapporté avec deux « Yud ». Et Rashi explique pourquoi deux « Yud » pour à quelque jour, il a créé. Pour dire que tout homme, finalement, il est né pour porter en lui deux vies. Nous sommes dédoublés, de la même manière que notre personnalité est dédoublée. Nous avons un côté matériel, un côté spirituel qui se confond des fois entre l'un et l'autre. Eh bien, il y a également, nous portons en forme, en nous finalement, deux formes de vie successives. Nous avons une première face de la vie, qui est la vie qui va se prolonger, chacun selon son mérite, 60 à 70 à 120 ans. Mais ça, ce n'est qu'une section de notre vie. Maintenant, il y a une seconde partie de la vie qui est la vie de Triyat HaMetim, la vie qui vient après la résurrection des morts. Finalement, c'est le même corps, dans les mêmes conditions, de la même manière que la première forme de vie d'un homme a été lorsqu'Ashbrou il a créé, il a pris Afar Minadama, il a pris de la terre. Eh bien, Akadosh Baruch Hu également, lorsqu'il a créé l'homme, il rapporte Rashi qu'il a pris de la terre un peu partout pour créer la personnalité de l'homme. Et quand cet homme, il est né, eh bien, pour quelle raison il aurait pris, dit Rashi, de la terre un peu de tous les endroits du globe, pour lui permettre à cette terre de pouvoir recueillir le corps, pour refaire à travers ce corps qu'on met dans la terre une préparation d'une vie à venir qui est une vie de Triyat HaMetim. Donc en d'autres termes, on arrête donc d'ici l'idée. Nous avons donc la mort qui est la fin d'un processus d'une vie A et l'enterrement qui est le début d'un processus pour une forme de vie B. Et c'est pourquoi donc ce qui explique un peu en partie tout le soin, lorsque on a un corps qui a perdu son âme, eh bien, c'est pas en l'enterrant qu'on se débarrasse un peu des traces que cet homme-là, parce que si tu le laisses à l'extérieur, il pourrait pourrir, tu pourrais aussi le détruire. Non, le but, c'est de le remettre dans des conditions qui sont appropriées pour pouvoir préparer, à travers cet enterrement, une prochaine vie qui est la seconde partie de notre propre vie. C'est-à-dire que finalement, dans l'esprit du judaïsme, la vie elle est double, elle est doublée. Elle est doublée d'abord dans la vie physique de ce monde-ci, dans la première vie, puisque nous sommes partagés entre une âme et un corps. Mais aussi, elle est double aussi, parce que nous portons une première forme de vie. C'est un peu, c'est pour donner une image lointaine, c'est comme une chenille dans un cocon, Qui a une vie de chenille pendant X temps, elle se renferme dans un cocon et puis ensuite elle va redonner naissance à une nouvelle forme d'insecte un peu plus tard. Eh bien, notre vie un peu est comme ça. C'est-à-dire, nous avons une première forme de vie. Et lorsque nous faisons dans l'enterrement, il y a une seconde forme de vie. C'est-à-dire que à chaque fois dans l'histoire du judaïsme où on s'occupe chaque fois qu'on s'occupe dans le judaïsme d'enterrer quelqu'un, en fait, dans l'enterrement, il y a un acte de croyance extraordinaire qui est j'enterre cette personne qui m'est chère et dans des conditions de kavod, puisque là, je lui prépare, lui, à cette personne, le Triyat HaMetim, la seconde forme de sa vie qu'il va vivre un peu plus tard.
D'où la visite de Rabbi Benard. Pour voir un peu.
Non, pas un peu plus tard, nous allons voir un peu Rabbena. Mais ça, c'est ce qui explique d'une manière générale la portée de l'enterrement qui n'est pas. Nous étions en train d'expliquer que l'enterrement, ce n'est pas la suite de la mort. On ne dit pas mort et enterré pour dire, bon, il est mort, puis non seulement on l'a fait disparaître totalement. Non. La mort est la fin du processus de la vie et l'enterrement est le début d'un nouveau processus pour la vie à venir. Et donc, quand on s'occupe d'enterrer une personne, en fait, nous sommes en train de le préparer à la vie à venir qui est Triyat HaMetim. Mais chaque fois qu'on enterre une personne, et en fait, nous allons comprendre qu'Abraham Avinu y a écrit dans la paracha, « Vilifkota », il est venu pour pleurer Sarah, mais un petit kaf, dit Rashi, le mot « Lifkota » est écrit normalement avec un kaf qui est plus petit que les autres lettres de l'alphabet. Pour quelle raison? Pour dire qu'il n'a pas beaucoup pleuré. Pourquoi il n'a pas beaucoup pleuré? A priori, la difficulté, elle est là. Eh bien, parce que le pleur qu'on donne lorsqu'on a perdu quelqu'un de cher, ce pleur, il peut être mal interprété. Vous savez, lorsqu'on a quitté quelqu'un, c'est pas qu'il a disparu. Personne ne disparaît. Il est juste endormi. Il est momentanément et provisoirement dans une situation de quelqu'un qui est endormi. Comment nous disons dans la paracha, l'ichéné afar. Nous, dans le judaïsme, on voit que tous les gens qui sont enterrés sont des gens qui dorment sous la terre. Comme vous dire, il y a un homme dans une vie en éveil, il y a une vie en sommeil. Il vit une autre forme de vie quand il dort. Il vit une autre forme de vie moins accéléré, mais il vit aussi. Seulement, il n'a pas peut-être toutes ses facultés à ce moment-là, mais il vit. Et nous aussi, nous disons donc par conséquent qu'il est interdit pour une personne de trop pleurer un mort. Quand on pleure trop un mort, on a l'impression que, on donne l'impression en tout cas, que c'est une disparition. Il a disparu. Et donc ça nous attriste affreusement. On dit non, c'est, regardez la mort comme étant quelqu'un que vous quittez parce qu'il part en voyage. Il va être absent. Mais il n'a pas disparu. Il sera lui autre part, un peu plus loin. Il sera autre part, un peu plus loin. C'est ça l'idée, en fait, de ce qu'on appelle l'enterrement dans le judaïsme. Pour quelle raison? Parce que il faut bien comprendre qu'il y a ici, dans l'état d'esprit des choses, il y a quelque chose qui est en forme, a priori, une certaine forme de contradiction. D'une part, on vous dit, vous savez, vous regardez le monde entier, le globe, les astres, vous regardez le monde dans son entité, les arbres, les oiseaux, tout ça. Et que vous posez la question, mais pourquoi ils sont là? Pourquoi ils ont été créés? On vous dit, ils ont été créés pour l'homme. Toute la création, le but de cette création, c'est l'homme. Et pas seulement pour Adam Harishon, mais pour tout homme et homme, il y a écrit, pourquoi que je voulais la créer, chaque personne avec un visage qui diffèrent les uns des autres, malgré les millions de personnes, nous restons quelque part uniques. Et Akjoua a voulu donner toujours un état d'unicité dans l'esprit d'un homme, on lui veut faire comprendre qu'il est un être unique, à l'image d'Adam Harishon, pour qu'un homme se rende compte que Bishvili livra Olam. Que si le monde est là, si le soleil demain se lève, c'est pas parce que c'est un système qui est déjà placé, que de toutes les façons il ne peut que se mettre en état, non, c'est parce que pour toi, en tant que Reuven Ben Shimon, tu mérites que cette chose-là, elle soit là. Donc si vraiment on poursuit cette idée, on devrait a priori dire, mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'un homme il meurt, pourquoi le monde ne se détruit pas, puisque c'est le monde, il est là pour lui. Si lui n'est plus, alors le monde devrait être détruit. Et donc, il y a une forme de contradiction dans l'esprit. D'un côté, on nous inculque, comprenez que le monde est là pour lui. Alors, s'il est là pour lui, si lui n'est plus, il faudrait que les choses disparaissent par voie de conséquence. Et pourtant, lui n'est plus et le monde reste. La seule réponse à cette question, c'est que lui, il est encore là. Il n'y a pas un homme qui n'est plus. Et donc, dans tout acte d'enterrement, finalement, il y a un acte de croyance dans Triyat HaMetim. Voilà pourquoi, à chaque fois, on dit ne regardez jamais et ne pleurez pas trop les disparus, parce que personne n'est réellement disparu. Ce que vous voyez, c'est quelqu'un qui t'a momentanément quitté pour aller dormir. Alors, tu ne vas plus entretenir de discussion avec lui, mais lui, il est là. Et il va prendre son éveil un peu plus tard. Et bien, c'est ce qui se passe un petit peu ce soin qu'on donne donc à l'enterrement dans le judaïsme, pour signaler qu'il y a toujours derrière un acte d'enterrement une émouna de Triyat HaMetim. Oui.
Israël Nadal Toledano avait dit, c'est ça un des synonymes de la kriya. Pourquoi on dit celui qui est le proche du Neftar, on lui dit de déchirer le vêtement? Il dit, parce que le vêtement, c'est quoi? Le vêtement, c'est ce qui habille l'homme, mais c'est pas l'homme. Vous voyez? Donc quand on déchire le vêtement, ben on déchire la partie extérieure, mais la personne est toujours là. Alors on dit, voilà, ben là, c'est là, il dit comme ça, c'est pour rappeler que le corps, c'est le vêtement de la Neshama. Donc quelque part, le corps, il est parti, mais il vient de rappeler comme ça que la Neshama, elle reste là. Donc c'est la même idée quelque part, c'est-à-dire que l'aspect extérieur de la personne est parti, on la déchire. Mais n'oubliez pas que ce n'est que le vêtement. À savoir que la personne elle-même est toujours là.
Alors, pour Hazak, c'est à peu près dans la folie de ce que je voulais dire. Donc maintenant, et c'est ce que nous allons comprendre maintenant, ceci nous explique en partie. Nous avons posé la question, comment se fait-il que de tous les gens qui sont morts jusqu'à Sarah, et donc il y a eu 2000 ans d'histoire au moins, la seule fois où on parle d'enterrement, c'est la première fois. On n'a jamais parlé d'enterrement avant Sarah. On a parlé de mort, mais pas d'enterré. Personne. Toutes les générations qui ont précédé, on dit cette personne, elle est née, elle est morte. Elle est née, elle est morte. Elle est née, elle est morte. Et l'enterrement, on n'en parle pas. Effectivement. Parce que cette idée est extraordinaire de voir dans l'enterrement une préparation à une vie à venir. elle se situe après la Akeda d'Itsak. Je voudrais maintenant revenir un peu sur la Akeda d'Itsak. Itsak Avinu, il a écrit à son propos que Itsak Avinu, il dit dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, il rapporte que a été le premier homme à faire la bracha Baruch Ata Hashem Mechayam Metim. Il est mort et il a revécu sur le Mizbéa. Ce n'est pas qu'il a failli mourir. Itsak Avinu est mort et il a revécu. Ça a été la première personne dans le monde à vivre matériellement dans ce monde-ci, déjà son Triyat HaMitim. C'est le premier ressuscité de tous les hommes. C'est tellement impressionnant cette histoire que Itsak Avinu a été le premier à vivre matériellement cet événement que nous attendons pour l'avenir. Ce que chacun d'entre nous attend pour l'avenir, le Triyat HaMitim, bien le premier homme qui l'a vécu, ça a été dans la personne d'Itsak Avinu.
Comment sait-on cela?
D'où savons-nous cela? Parce qu'il y a écrit à propos des Avot, il y a écrit « Zacharti et Beriti Abraham » Va'af et Beriti, Itzrak, va'af et Beriti, Yaakov et Skor. Et le pasuk fait remarquer ici que le qualificatif se souvenir, il est écrit qu'à propos d'Avraham et de Yaakov, mais pas à propos d'Itzrak. Je relis le pasuk. Ve'zacharti et Beriti Avraham, ve'et Beriti Itzrak, ve'et Beriti Yaakov et Skor. Et la Gemara donc pose la question, comment se fait-il que la Zechira, le souvenir, n'est pas écrit à propos d'Itsak? On n'a pas besoin de se souvenir de quelqu'un qui est là. Le souvenir, c'est pour quelqu'un qui n'est plus présent. Alors on dit, ah, je me souviens, c'est un événement qui est passé un peu dans l'oubli, et on a besoin de faire un acte de souvenir pour ramener les choses à leur réalité. Mais quand vous avez quelqu'un en face de vous, on ne dit pas, je me souviens de toi, tu me vois. Et donc, on ne peut pas se souvenir de quelqu'un qui est présent. Et de là, donc, dire le Pirkei de Rabbi Eliezer, Itsak Avinu a été le premier homme. D'ailleurs, je voudrais juste faire une parenthèse. C'est vrai que la première bracha du Shmoné Esré s'appelle Birkat Avot. Alors, elle est composée, notre Shmoné Esré est composée finalement d'une introduction, d'une conclusion, et au milieu, il y a nos demandes. J'explique. Les trois premières brachot, c'est les Birkat Avot. Magen Avraham, Mechayem Etim et Akel Akadosh sont les Birkat Avot. Ensuite, il y a nos demandes. Et puis ensuite, il y a la Oda. Les trois dernières brachot, ce sont des Odaot. Modim, Anahno, etc. Maintenant, les trois brachot premières. La première, Magen Avraham, est bien sûr en rapport direct avec la personnalité d'Avraham. La seconde, Mechayam Etim, comme vous le comprenez, c'est en référence à Itsak Avinu. Et la troisième bracha, Akel Akadosh, en référence à Yaakov Avinu. Maintenant, plus que ça, quand vous dites dans la première bracha, et avant de conclure, Magen Abraham, vous dire Baruch Ata Hashem Elokim Elokim Eloke Abraham Eloke Yitzhak Velkarak. Ensuite, vous dites Akel Agadol, qui est un qualificatif qui est en rapport avec Abraham, Agibor, qui a un qualificatif qui est en rapport avec Yitzhak, Ve'anora, qui est par rapport à Yaakov, qui dit Manora Amakomazé, d'une part. Après, vous Gomel Hasadim Tovim, encore une fois, c'est par rapport. Ça, c'est d'après le Gaon de Vilna. Gomel Hasadim Tovim, ça, c'est par rapport à Yaakov Avinu. Kone Hakol, c'est pour Itzhak. Il dit pourquoi Itzhak, on dit celui qui a acquis le tout. Parce que tout ce qu'on peut acquérir dans la vie, c'est quelque chose qui nous est donné. C'est-à-dire que la première forme de notre vie, on ne l'a pas mérité, c'est un don de Dieu. Quand un homme vient dans le monde, il ne vient pas par droit, il vient par cadeau. On fait naître une personne, mais cette première forme de vie, c'est une forme de vie qui nous a été donnée gratis. Personne ne l'a mérité. Alors que Itsak Avinu, lui, il a une seconde forme de vie, celle que nous allons vivre par la suite, qui est une vie de droit. C'est-à-dire que je par un travail dans une vie antérieure, la première forme de ma vie, eh bien, j'ouvre la possibilité de revendiquer le droit de vie dans une vie à venir qui est la vie que nous allons avoir après l'être étamétime. Eh bien, cette vie-là, qui est finalement l'acquisition d'une personne, ça a été Yitzhak Koneh Hakol, dit le Gaon de Vilna. Koneh Hakol, c'est lui qui a acquis tout, c'est-à-dire que parce qu'il a fait sacrifice de sa vie, alors il a eu le droit en retour d'une vie qu'il a méritée de droit. Koneh Hakol. Ensuite, Vezocher Chazdei Avot revient de nouveau sur Yaakov Avinu, qui grâce à lui a bouclé la boucle des trois Avot. Donc, cet événement de Yitzhak Avinu avec la Akeda d'Irachi, c'est l'événement, le premier événement du Tret Amitim, et avoir été vécu par le premier homme, et il ne sera pas vécu par une seconde personne que lui. Mais après ça, la Torah juxtapose l'enterrement de Sarah avec Akedat Yitzhak pour dire que ce qu'a fait Abraham dans l'enterrement a été en rapport direct avec la Akedat, dans le sens où si Yitzhak Avinu a subi la Tret Amitim dans la Akedat, Sarah, elle est enterrée pour préparer sa Tret Amitim. Et voilà donc le rapport entre l'événement de la Akedat et celui de l'enterrement. C'est-à-dire ce qui s'est passé naturellement dans la vie d'Israël, c'est-à-dire il est revenu à la vie, et bien c'est ce qui se passe finalement chaque fois que nous allons prendre un corps qui a priori a terminé une première vie, et bien lorsque avec la mort il a terminé sa première vie, et avec l'enterrement c'est une préparation pour une vie à venir. Et donc il y a ici une préparation pour Tret Amitim dans cet événement-là. Maintenant, on revient maintenant à l'histoire de Rabbi Naa. Nous avons rapporté un texte, juste pour ceux qui n'étaient pas là au début du cours, nous avons rapporté un texte à propos d'un Rav que la Gemara rapporte dans Baba Batra, Rabbi Naa, qui avait pour but dans sa vie, s'était mis comme mission de délimiter les endroits, les cercueils, pour permettre aux Kohanim de circuler en Eretz Israël, donc il délimitait. Et un des endroits qui lui a été permis, c'était la seule personne d'Irachi, parce que c'est de rentrer à l'intérieur de la Maharata Marpella. Vous savez, nous, on n'y rentre pas. Hein. Ce que vous voyez là, c'est superficiel. Quand vous montez dans ce bâtiment et on vous montre une tombe, ce n'est pas qu'il est enterré en dessous. Hein. Il est bien au profond. Il n'y a rien de tout ça. Donc, mais la seule personne, dit la Gemara, à pouvoir eu le mérite de rentrer à l'intérieur et de pouvoir voir Abraham, Yitzhak et Yaakov et et Adam Arishon, ça a été le Rabbi Naa, c'est la seule personne qui a pu le faire. Ah, il dit comme ça. Il dit que ce qu'il faut comprendre à travers ça, c'est que Rabbi Naa a compris que finalement, qu'est-ce qu'il a rencontré à travers, dans la première rencontre qu'il a eue avec Abraham ? Il a vu un homme, après sa mort, dans une position d'accouplement avec sa femme. Donc je vous ai rapporté, quand il a vu, il est rentré, il a vu Eliezer, le serviteur d'Abraham à la porte, il a dit je voudrais rentrer pour voir un peu délimiter l'endroit d'Abraham. Il dit mais que fait Abraham actuellement? Il dit il est en train de s'accoupler avec sa femme. Il a dit je peux quand même rentrer? Il lui a dit, Abraham avait dit de l'intérieur, oui tu peux rentrer, il n'y a pas de problème, même si tu me vois dans une position qui n'est pas tout à fait, c'est pas grave. Tout le monde sait que dans le monde à venir, il n'y a pas de honte. Et donc, on dit, quelle est cette image, il dit le monde le Maharal, d'un homme qui, après sa mort, est accouplé à sa femme. Vous dites ce qu'il a voulu, et c'est ça l'idée essentielle du Maharal, sans rentrer dans tous les détails du Maharal. Ce qu'il dit, le Maharal, c'est la chose suivante. Il a dit, Avraham Avinu a été l'intériorité de la personnalité de Adam Arishon. Je vais vous expliquer tout de suite ce que ça veut dire. Il y a deux personnes dans le monde qui ont été appelées le Père des Nations. Le Père des Nations, c'est-à-dire que tous ceux qui sont nés à travers lui, c'est bien sûr le premier, c'est Adam Arishon. Le second, Abraham. Abraham a été le second homme sur lequel a dit la Torah dit « Av Hamon Goim Netatir ». il est devenu le père de toutes les nations. Même ceux qui ne sont pas nés de lui peuvent se rattacher par affiliation à Abraham Avinu par le fait qu'ils acceptent sa forme de vie. Tout guer, tout converti qui vient pour se convertir au judaïsme, il s'appelle Ben Abraham. Il peut dire Elokin veloke avotenu, Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, comme dit monsieur, mais d'où vous sortez? Depuis quand Abraham, Yitzhak et Yaakov sont tes pères? Il dit oui. Je me suis rattaché à la foi d'Abraham, je deviens à travers cette foi le fils et le descendant d'Abraham. Et donc ces deux personnes, finalement, elles ont été, comme nous allons le pasouk le fait constater ici, lorsqu'il a vu Abraham, il a dit, tu as vu Dmout Diokni, tu as vu l'image de mon image. Mais tu ne peux pas accéder et voir Adam Arishon qui est Tselem Elohim. Tu as vu Dmout Vetselem, mais tu ne pouvais pas voir Adam Arishon qui était à un niveau bien supérieur. Alors il faut comprendre que ces deux personnes en l'image de Adam et de 46. Ces deux personnes en l'image de Adam et de Abraham ont été finalement deux personnalités que nous venons de dire dans le verset, puisque Rabbeinu n'a vu a priori que ces deux personnes. Il n'a pas vu ni Isaac ni Yaakov. Il a vu Abraham et Adam. En voyant Abraham et Adam, il a vu finalement cette composition de deux personnes qui ont joué dans la vie le même rôle. Ils étaient tous les deux appelés à être le père de toutes les nations, les premiers avos de toutes les nations. Et en jouant ce rôle, dit le Maharal, finalement c'est un rôle complémentaire avec un but différent. Ce but est comme ça. Si Adam Arishon est né unique, il était tellement unique que même sa femme n'est pas née avec lui. Lorsqu'il a créé le monde, comprenons-nous, lorsqu'il a créé les animaux, il n'a pas créé un éléphant. Ni un éléphant, une éléphante. Il a créé un groupement d'éléphants, par les minots, par groupe. Lorsqu'Hachem a créé, quel que soit l'animal, les animaux qui sont nés, il les a créés par groupe. Le seul être qui est né unique, mais tellement unique, que même sa femme, elle n'est pas née parallèlement à lui, mais elle est née de lui. C'est Adam Arishon. On a voulu vraiment marquer l'idée qu'il était à l'image de Dieu. Il était un. De la même manière qu'Hachem est un, l'homme aussi, il est unique. Il est tellement unique que ta femme ne peut être qu'une partie, mais pas quelque chose qui est parallèle à toi. Eh bien, cette image de cet Adam-là, lorsqu'il vient et qu'on commence à constituer à travers lui son épouse, alors il est chargé d'une mission dans la vie. Pérou, Urbu, Umilu et Taharetz Vekiv Shua. Tu es appelé maintenant à te multiplier, à peupler le monde, à développer ce monde matériel que je t'ai donné à créer. Et c'est le rôle que je vous assigne à Adam Arishon. Il lui assigne ce rôle d'être le un qui va devenir beaucoup. Un qui va devenir beaucoup. De un, je vois, attends de lui qu'il y ait des hommes de partout. Que la terre soit peuplée. Qui est ce qu'on appelle Yishuv Ha'olam, qui est l'habitation du monde. D'ailleurs, dans la Lacha, c'est très important. Ça reste encore dans la Lacha. Vous savez que nous retenons dans la Lacha, par exemple, c'est juste un exemple, que quelqu'un qui vit de jeu, il vit par le jeu. C'est-à-dire que toute sa source de parnassa, c'est les jeux. Au tiercé, au poker, peu importe. Mais il gagne sa vie à travers le jeu. Et il n'a pas d'autre activité que ça. Cet homme-là, il est pas saoul, là, il doute. On ne retient pas son témoignage. On ne peut pas prendre cet homme-là pour être témoin pour rien. Ni pour un choupa avec Kiddushin, ni pour une question de prêt, d'argent, rien. Il est pas sous la Hidoute. Et pour quelle raison il est pas sous la Hidoute? Il y a deux idées qui sont rapportées dans la Gemara. La première, c'est de dire qu'il est pas sous la Hidoute parce qu'on peut facilement le soudoyer s'il a tellement le gain de l'argent facile. Donc c'est quelqu'un qu'on peut soudoyer facilement. Donc on ne peut pas lui faire confiance. Première idée. La seconde idée, c'est parce qu'il n'est pas osek beishuvo shel olam. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas en train de construire le monde. Tout homme, il a une activité. L'activité qu'un homme il a dans la vie, c'est une construction de ce monde. Et construire le monde, c'est un but en lui-même. C'est un but, construire le monde, être actif, être un pion actif dans la construction du monde, c'est un but. Et quelqu'un qui finalement ne passe son temps qu'à jouer, il n'y a rien de constructif dans ça. Il n'est pas en train d'élaborer quoi que ce soit, il n'est pas en train de développer quoi que ce soit dans
le
monde.
Quel est son mérite ?
Comment ?
Quel est son mérite, puisqu'il gagne ?
Oui.
Par le hasard.
Oui, c'est ça. Non, au-delà de... Il n'y a pas de mérite. Il ne remplit pas le rôle essentiel de la vie pour laquelle Akjbori l'a chargé. Adam Arishon dit maintenant « Pérou, Urbu, Umilu, et Taaretz, Vekiv, Shua ». J'aimerais que vous multipliez. Donc finalement, Adam Arishon a été l'homme dont la portée, le but à venir d'Il Maharal, c'est de, un, faire beaucoup. C'est d'aller de 1 pour faire de 1 de l'unique vers le nombre. À l'encontre de ça, Avraham Avinu, c'est quelqu'un qui vient du nombre, mais dont le but est de ramener tout vers le 1. Il a un mouvement contraire à celui d'Adam Arishon. Il dit, le passage, lorsqu'on peut parler de la personnalité d'Avraham et de Sarah, là que je pourrais dire, mais regardez un peu, en parlant du peuple d'Israël, d'où vous venez. Habitu el tsuchot safrem. Regardez d'où vous avez été pris, de quel endroit vous êtes né. Habitu el Avraham avichem ve el Sarah tocholalchem, ki ehad kerativ. Je l'ai appelé ehad. Et la Gemara dit, pourquoi Avraham Avinu, il s'appelle l'être unique. C'est un nom qui lui a été donné. C'est ce qualificatif. C'est ce qui fait d'Abraham Avinu un être unique. Qui est had kerativ. La Gemara, elle dit, à propos d'un passage que vous connaissez certainement très bien, le passage qu'on récite chaque semaine à Shabbat dans Shir HaShirim, Achot lanu ketana veshadaim en la manase la achotenu beyom sheidu barba. Dit le passage que nous avons une petite sœur, Achot lanu ketana. Elle n'a même pas de poitrine, elle n'est même pas femme. Alors, Mana, c'est qu'est-ce qu'on va faire à notre sœur le jour où on parlera d'elle. Le Chachamim explique le verset à propos d'Adam Arishon. Il dit, Achot lanu ketana, qui est donc cette petite sœur? C'est Avraham Avinu, qui était au début de l'élaboration de son système. Il était en train de proclamer l'unité de Dieu dans le monde. Mais il était en face à l'épreuve avec celui qui voulait le jeter dans le feu. Et là, bien sûr, il avait le choix ou d'accepter de mourir pour sauver sa foi, ou alors renier sa foi et gagner la vie. Alors dit le passage qui dit, « Im homahi, si il est ferme dans ses convictions comme une muraille, nivne alea atirat kasem, nous allons construire sur lui un palais en argent. » Vim deleti, mais s'il est comme une forme de porte, une fois à droite, une fois à gauche, qui va d'un endroit à l'autre, alors, Natsu alea loharez. La Gemara dit, mais pourquoi Avraham Avinu s'appelle Ahot? Et là-dessus, il explique la Harim, Sheiha et Akraim. Le monde était, lorsqu'il est venu à Adam Arishon, Aolam aya Kraim Kraim. Le monde était un monde déchiqueté. Il n'y avait rien qui le réunissait. Il n'y avait pas de regroupement. Le monde était... Chacun allait de son côté. Il n'y avait pas un message qui permettait de pouvoir regrouper tout ça sous une forme d'une idée. Et donc, lui, Iha et Akraim, il a recousu les lambeaux d'un vêtement. Et il a fait de ça... D'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est que la beauté du Lashon HaKodesh, c'est pas un cours d'Olpan, hein, mais c'est pas grave, mais je vous le dis maintenant. On appelle un frère et une sœur, nous, chez nous, Ah et Ahot. Pourquoi? Parce que la Torah voit dans les frères et les sœurs des lambeaux de la personnalité des parents. C'est-à-dire le père, il se découpe à travers chacun de ses enfants. Lui, il a pris les yeux de son père, et celui, il a pris le caractère de sa mère, etc. Donc c'est toujours des parcelles d'une unité. Et donc on appelle un enfant Ah ou Ahot, parce que nous sommes quelquefois des morceaux d'une entité qui était les parents. C'est-à-dire qu'il y a la personne des parents qui se découpe en fractions à travers les différents enfants qu'ils ont eus. Et chaque enfant, ce n'est qu'une bribe, et donc maintenant, Ihoui et Akraim, c'est recoudre, mais pas recoudre deux morceaux qui sont séparés, mais qui étaient à l'origine U1, mais qui se sont séparés, qu'il faut de nouveau regrouper vers là. Il dit le Maharal, pour terminer, il dit que c'est ça la beauté d'Avraham Avinu. La beauté d'Avraham Avinu, c'est même ce lien marital, même le lien marital, qui finalement, normalement, d'après la halakha, ce lien marital, il s'arrête au décès de l'homme. Quand un homme est mort, sa femme est permise. C'est-à-dire que le lien qui rattache un homme à une femme va jusqu'au seuil de la mort. Mais une fois, quand le mari est mort, la femme est libérée. Pourquoi elle est libérée ? Mais elle n'est plus la femme d'eux. Ce lien marital se coupe quand la mort intervient. Ça, c'est ce qui se passe de manière générale. Mais Avraham Avinu, et c'est ça l'image que dit le Maharal, dans cette image qu'Avraham Avinu, au-delà du seuil de la mort, eh bien, il continue à entretenir une vie maritale avec Sarah. Il est en train de s'accoupler à sa femme. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu a réussi dans sa vie à faire le chemin inverse de Adam Arishon. Adam Arishon est parti de 1 pour faire beaucoup, et lui, il est parti de beaucoup pour faire 1. Il était tellement 1 qu'il continue à englober sa femme à l'intérieur de lui, même là où on s'attendrait qu'à un moment donné, ce soit deux choses et deux entités distinctes, l'homme et la femme. Lui, cette relation d'homme-femme, de mari et de femme, eh bien, elle continue encore à exister, même après et de là. Et c'est ça que l'image a été donnée. Ce qui veut dire la chose suivante. Je suis obligé d'aller un peu plus vite. Ce qui veut dire que... D'ailleurs, dans la bracha, Avraham Avinu a été celui qui était à l'image de Dieu. Dit le passo. En quoi l'homme, de manière générale, est à l'image de Dieu? Il écrit « Kidmoutenu ». Il était Kidmoutenu. La Rashi dit Kidmoutenu, la vine ou les askil, celui qui pense, c'est l'homme parlant, l'homme qui réfléchit, c'est ça la créature humaine. C'est l'homme, les avines ou les askil, celui qui comprend, qui peut interpréter les choses, qui peut parler, qui peut exprimer. Et ensuite, Kidmoutenu de Rashi, domelo, maou hanoun, afata hanoun, maou rahoum, et c'est celui qui peut s'apparenter et se ressembler à Dieu. Dans son comportement. Akjou, il est charitable, tu es aussi charitable. Akjou, fais telle bonté, tu fais aussi les bontés. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah, un homme, de pouvoir établir un parallèle entre lui et Akadosh Baruch Hu dans la ressemblance dans les actes. Puisqu'il va dans les actes, ressembler aux actes divins. Eh bien, dans ces deux formes, Avraham Avinu a été celui qui a été l'homme de réflexion, celui qui a ramené par sa réflexion la croyance en Dieu, et celui qui a imité Dieu dans ses actes, puisque c'était l'homme de charité. Et on peut dire, dit le Maharal, et c'est la fin de ce que je voulais dire, que la personne d'Abraham et la personne de Adam, ce n'est finalement que deux facettes d'une même personne. Ce qu'a été Abraham, ce qu'a été Adam, ce ne sont pas deux personnalités. C'est une même et unique personnalité à deux rôles différents. Adam Arishon était, pour son rôle, un rôle matériel, celui qui était appelé à peupler le monde, à construire le monde, à faire évoluer le monde. C'était le travail qui a été donné à Adam Arishon. À l'encontre de ça, Abraham a été l'homme d'esprit, celui qui a pris ce tout. Et que finalement, chaque personne séparément, c'est un monde à part. Eh bien, il a réussi à trouver un point commun entre tous les hommes et les rallier sous une même et unique idée que Hachem Elokeinu Hachem Echad. Nous sommes tous, et chaque fois qu'il utilisait sa bracha, sa richesse, tout ce qu'il possédait, c'est pour inculquer aux gens cette croyance que tout ce que nous avons dans la vie, mais il faut savoir faire marche-retour et ramener à ça, à l'origine de notre réception, qui est l'origine, c'est divin. Et c'est, tout revient vers lui, Maintenant, je termine donc. Lorsqu'Avraham Avinu va enterrer sa femme, Sarah, bien sûr qu'il y a une recherche très, très particulière. Quel est l'endroit qui convient à la personnalité de Sarah? Et il ne trouve pas d'autre endroit que Maharat à Marpella. Et Hevron. Pourquoi Maharat à Marpella se trouve particulièrement à Hevron? Parce que le mot Hevron, et si vous êtes attentif à l'hébreu, vous allez entendre le mot Hibour. Il dit le Zohar que le mot Hevron, c'est la porte de l'endroit qui est un endroit de jonction entre ce monde et le monde en haut. C'est la porte. Hevron est la porte du Gan Eden. C'est comme une porte. Vous êtes là. Ça fait délimitation entre l'extérieur et l'intérieur. C'est ce qui est une délimitation. Eh bien, ce que représente Hevron géographiquement dans la construction du monde, l'enterrement, c'est ce point de jonction entre une vie antérieure et une vie à venir. C'est-à-dire qu'il y a dans l'enterrement un point de jonction. Il y a quelque chose qui est un point de rupture entre ce qui était avant, mais qui ne s'est pas arrêté, qui est momentanément suspendu pour ce qui va venir par la suite. Et donc, c'est pourquoi on dit, dans la personnalité de ceux qui ont été des grands hommes, qui ont su recoller en eux leur partie, leur physique avec le matériel, qui ont su aussi de leur vivant faire une paix finalement, une forme de paix entre la partie physique de leur personne et la partie spirituelle d'une personne, et bien ces hommes-là qui ont unifié leur personnalité, parce que quelquefois nous sommes tous des êtres décousus. Nous sommes tous des êtres décousus. Une fois, nos passions vont d'un côté, nos convictions vont de l'autre. On est déchirés, on est découpés. Nous ne sommes pas unifiés. Un homme qui maîtrise son corps, c'est un homme unifié. C'est-à-dire que son corps va où l'esprit veut et l'esprit va où le corps il veut. Et finalement, il a réussi à réaliser ce beau mariage. Mais autrement, on vit déchiré, découpé entre les besoins de l'un et qui sont contraires aux besoins de l'autre. Mais les hommes et les grands hommes, comme les Avot HaKedoshim, qui ont réussi dans leur vie à faire ce mariage, d'abord avec eux, avec eux-mêmes. Eux avec eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont rallié en eux les parties différentes en un même point. Eh bien, ces hommes-là ont mérité, quelque part, de pouvoir être enterrés dans l'endroit qui est l'endroit de regroupement entre le monde physique, le monde en bas et le monde en haut. Entre Hevron, qui est la porte entre le Gan Eden et ce monde-ci. D'ailleurs, c'est très particulier, je reprends. Ça, c'est ce qui concerne Avraham Avinu. Maintenant, nous disons une bracha. Quand on marie quelqu'un, il y a une bracha qui est Tzera Adam. Cette bracha, il dit Asher, pas Asher Bara. Asher Bara est Adam, Betsalmo. Il a créé l'homme, Betsalmo. Betsalmo, c'est à l'image divine. Là où il y a écrit Betsalmo, c'est à propos de Adam Arishon. Betselem Elokim Asa et Adam. Asher bara et Adam Betsalmo. Il a créé l'homme Betsalmo à son image, qui fait référence à Adam Arishon. Betselem Demut Tavnito, qui est la seconde phase qui a écrit ici à propos d'Avraham Avinu. Il était à l'image de ressemblance de cette image-là. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu a réussi par un travail à ramener une dimension divine aux actes humains. Et à travers ça, il a permis que la vie soit une vie éternisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture dans la vie. Il y a juste suspendu momentanément. Mais il n'y a pas de rupture de la vie. La vie n'est jamais, il n'y a jamais de rupture de la vie. Il y a un arrêt de la vie pour préparer une vie à venir. Mais il n'y a pas de rupture. Nous n'avons pas. Et ça, finalement, c'est la disponibilité d'un homme. Je vais maintenant juste terminer. Vous savez que Akjbo nous a mis dans un monde qu'il a créé en 6 jours. Ce monde en créé en 6 jours, il a Hachem aussi préparé l'histoire de l'humanité en 6 millénaires. L'homme est appelé à jouer son rôle sur la terre, pas éternellement, sur 6000 ans. Et ce qui est particulier, c'est qu'il y a une corrélation entre le jour de la création et le millénaire qui a été vécu. Et ça, c'est rapporté, sans pouvoir m'attarder, il y a une relation entre ce qui s'est passé avec le premier jour de la création, Le premier jour de la création, à quelques jours, il a créé les Mehorot, la lumière, le premier homme qui s'appelle Or, au point qu'il est tellement clair, Or, que Rabbena n'a pas pu voir, et ce qu'il a pu voir, la partie la plus faible de son corps, qui est les talons, la partie la plus basse, qui est le talon, il était aussi rayonnant que deux soleils. Ça correspond au premier millénaire. Le second millénaire, l'Olam était encore flou. Il n'y avait pas d'identité. Le monde, on voit qu'il y a des générations qui se suivent, mais sans identification. Sauf de temps en temps, un petit Metouchelar qui sort, un petit Hanor qui sort, mais rien qui peut être un message pour l'humanité. C'est un message très, très particulier pour une ou deux personnes. Ensuite, troisième millénaire, c'est Abraham Avinu. Vatera Yabasha. Yabasha, c'est la différence qu'il y a entre de l'eau et la terre. C'est que l'eau, le monde était recouvert d'eau. Troisième millénaire, il y a de la terre qui est là. La différence entre l'eau et la terre, dit le Maharal, c'est que l'eau, c'est un rassemblement qui est fictif. Vous avez l'impression que l'eau forme un tout. Mais en fait, vous la prenez et vous voyez que chaque goutte, elle est séparée. Il n'y a pas d'unité. C'est ça la particularité de l'eau. L'eau, elle est que vous avez l'impression d'être un corps uni. Mais en fait, il n'y a rien d'uni. Vous la prenez. Vous ne pouvez pas prendre une goutte et soulever tout le reste. Chaque chose est séparée. C'est un peu l'image de ce monde qui était existant lorsque Avraham Avinu est venu jouer son rôle dans la vie. Et Avraham Avinu était celui qui a pu regrouper. Lorsque vous prenez cette eau, vous prenez de la terre. Alors la terre, c'est la seule possibilité de créer un corps solide. Quelque chose qui vous permet de tenir une extrémité, de prendre le tout à la fois. C'est-à-dire que vous avez réussi à regrouper, à faire une unité de plusieurs... De chaque goutte de poussière, de terre, vous l'avez regroupé en un tout. Ça le fait maintenant, un tout. Et donc maintenant, c'était donc cette image. La Gemara dit c'est six millénaires. En fait, la Gemara rapporte, il se partage en trois parties. Tous les 6000 ans d'histoire que nous allons vivre, ils se partagent en trois parties essentielles. Première partie, Alpaim Tohu, deux millénaires de ce qu'on appelle Tohu, d'incohérence. Ensuite, Alpaim Torah, deux millénaires avec la Torah, ve Alpaim Yemot HaMashiach. Et le troisième deux millénaires, c'était Yemot HaMashiach. Alors maintenant, la Gemara dit, mais comment tu dis Alpaim Torah? Mais la Torah n'a été donnée qu'en 2448, à partir de l'histoire, donc 448 ans après le début du troisième millénaire. La Gemara dit non, Torah commence depuis qu'Avraham Avinu est Kiret Boro. Quand Avraham Avinu, c'est là qu'Avraham Avinu a été, ce qu'a été Adam HaRishon, encore une fois je reprends donc l'idée du Maharal, ce qu'a été Adam HaRishon pour la création du monde, pour les deux premiers millénaires, Avraham a été l'homme de la seconde partie de l'histoire, Alpaim Torah. Et ce qu'a fait Avraham pour les Alpaim Tohu, il a fait Avraham dans les Alpaim, dans les deux millénaires qui s'appellent Alpaim Torah. En d'autres termes, maintenant si je dois tracer un tracé géométrique. Adam, ces deux millénaires, ça a été partir d'un point et dont le but est de faire de un beaucoup. Donc un triangle dont le sommet est un et dont la base est large. Avraham Avinu, c'est le contraire, c'est le même triangle inversé. C'est un triangle qui est large en haut, mais dont le but est de ramener ça à un point. Et Yemot HaMashiach, quand vous superposez ces deux triangles un sur l'autre et que vous formez six petits triangles égaux, vous avez ni plus ni moins qu'une Magen David. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est l'image de Yemot HaMashiach. David HaMelech est le roi qui va être là, qui va prendre Malchut Shakai. C'est lui qui va ramener sur le monde, encore une fois, d'une part, la richesse matérielle, la puissance physique, la puissance guerrière. Et d'un autre côté, celui qui va unifier toutes les nations. Tout le monde va revenir, et c'est pas seulement on dira Am Israël Echad, mais les nations entières, elles sont réunifiées. Comme nous disons dans le Krat Shema, Shema Israël, Hachem Elokino, c'est même si Hachem il est notre Dieu, à nous aujourd'hui seulement, mais Hachem Echad par la suite, il sera le Dieu de toute l'humanité, et bien le rôle qui va être assigné à celui qui va être le porteur de ce beau message, qui est finalement la superposition de ces deux formes de buts qui sont attribués à l'homme dans ce monde-ci, qui sont Yemot HaMashiach, c'est ces deux triangles réunis. D'une part, la nécessité d'aller de un et de multiplier, d'améliorer, de structurer, d'augmenter, de remplir le monde, de le perfectionner, d'une part. Et donc la Chokhma mise au service de toutes les sciences, d'une part. D'autre part, un message où on nous fait comprendre que bien sûr cette recherche de vouloir mieux développer, mieux comprendre, mieux agir, eh bien elle est dans le but de l'âme à ramener tout ça vers un point et ramener tout ça, tous nos investissements, tous nos efforts, tout ce que nous faisons, c'est de les ramener vers l'unité divine. Eh bien ce rôle-là, il va être donné. Bien que je voudrais quand même, avant de terminer, nous n'avons pas... ni dans la Gemara, ni nulle part, aucune référence finalement à la Magen David. Je voudrais vous dire, juste, il n'y a pas de référence. On ne sait pas d'où est née cette image géométrique qui s'appelle le Magen David. Personne ne sait précisément où est-ce qu'il y a. Il n'y a pas de référence, nulle part. Mais c'est une Kabbalah. Nous savons que lorsque David HaMelech allait à l'armée, eh bien, c'était ce triangle qui figurait sur les boucliers des soldats de Am Israël. Alors cette image, maintenant, bon, ce n'est qu'une interprétation personnelle, mais c'est ce que je vous dis à propos de Magen David, ne prenez pas ça comme un texte ni du Maharal, ni de quoi que ce soit. C'est une interprétation très très personnelle, mais c'est une fois que nous avons développé cette image de Adam Arishon, qui est le superposé finalement, et c'est ça l'image, il est dans une Maharat à Marpella. C'est-à-dire que c'est le parallèle d'Adam Arishon. On parle de deux personnalités dans Maharat HaMarpella, bien qu'il soit quatre couples. Mais Rav Bena, il ne parle que de deux couples. Il parle d'Abraham d'un côté et il parle d'Adam de l'autre côté. Alors, est-ce qu'Abraham et Adam Arishon sont deux personnalités qui sont installées au même niveau, mais un plus intérieur que l'autre, ou est-ce que c'est un qui est superposé à l'autre? Mais une chose est certaine, c'est que l'un est l'équivalent de l'autre. Ce qu'il y a à l'intérieur se trouve à l'extérieur. Ce qu'il y a chez l'un, il y a chez l'autre. La même mesure et la même portée de l'un, eh bien, elle est unique et identique à la portée de l'autre. Ils ont finalement joué l'histoire d'un couple tout en étant deux hommes. C'est-à-dire qu'ils ont tous les deux réalisé le même but dans l'humanité avec un mouvement différent, un partant de un vers beaucoup, l'autre allant de beaucoup vers le un. Mais ils sont réalisés comme, on pourrait dire presque, Adam Arishon a été le complément de Adam Arishon. Avraham Avinu a été le complément de Adam Arishon dans ce sens-là où les deux forment les deux parties d'une même réalité. Adam. Et d'ailleurs, dans le Passouk, c'est rapporté qu'Adam Arishon en appelle Adam. De la même manière, dit le Passouk, qu'Akshbou, il a créé le monde pour Adam Arishon. Nous disons aussi, Ele toldot ha-shamayim ve-aretz behi baram. Voici donc toute l'histoire de la création du monde, behi baram, leur création. Les Hacham disent, ne crie pas behi baram, mais be-avraham. C'est la même lettre. Be-avraham, ce que la création de ce monde qui était le fruit et le cadeau apporté à Adam Arishon. Donc je vous lui présente, voilà, j'ai créé un monde pour toi. Eh bien, je vous remets cette même offre entre les mains d'Avraham Avinu. Il dit, « Ele toldot ha-shamayim va-aretz behi bare'am. Al tikri behi bare'am ela be'avraham. » C'est exactement la même lettre. Voilà ce que je voulais dire à propos de Matam Eva. Ceci pour nous donner sensation que lorsque nous allons un jour, c'est au moins qu'on ait cette sensation que si vous avez l'occasion un jour donc de prier Maharat HaMarpella, mis à part notre souhait de voir peut-être plus proche, qu'on n'a pas l'occasion de faire, et de peut-être voir cet endroit un peu plus propre, qui soit que à nous, mais enfin, Be'ezrat Hashem bientôt. Mais quoi qu'il en soit, sachez une chose, qu'à ce moment-là, vous trouvez à la porte du Gan Eden. C'est là où vous ressentez votre personnalité se ressouder en elle-même. C'est à vous sentez que finalement, votre personne, en tant que personne unique, vous, avec vous-même, avec votre corps et votre âme, et vous, en tant qu'élément d'un peuple d'Israël qui est appelé pour unifier toutes les nations entières, vous êtes exactement dans le point de jonction de ces deux mondes, dans ce qui rapproche ce qui est physique et ce qui est spirituel. Voilà.